Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, podcast d'actu. Aujourd'hui, les journalistes de 20 minutes, mes collègues Caroline Politi et Hélène Sergent, racontent le procès des attentats de janvier 2015. Les attaques à Charlie Hebdo, d'une policière à Montrouge et de la supérette hypercachère ont fait 17 morts. Un verdict de ce procès est attendu le 16 décembre. Les principaux responsables des attaques, les frères Kouachi et Hamidi Koulibaly, sont morts. Dans le box des accusés, alors, il y a 10 personnes. Trois autres sont en fuite ou présumées mortes. Un seul comparaît libre. Ces personnes, elles sont jugées pour avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. 50 prisons, à la réclusion criminelle à perpétuité ont été requis contre elles. Ce procès, il est historique à plusieurs égards. C'est le premier procès de la vague d'attentats qui a endeuillé la France en 2015. Fait rare, ce procès, il est filmé pour l'histoire, comme l'a pu l'être le procès de Klaus Barbie en 87. Il se déroule dans un contexte sanitaire et sécuritaire extraordinaire. Il y a la crise du Covid-19 qui a posé notamment des questions sur le port du masque dans la salle d'audience. Et puis, il y a eu 3 attentats en France pendant ce procès, dont 2 directement liés aux caricatures publiées par Charlie Hebdo. À 20 minutes, 2 journalistes spécialisés travaillent sur cet événement judiciaire depuis plus d'un an.
Bonjour, Hélène Sergent, je suis journaliste à la rubrique Justice de 20 minutes à Paris.
Bonjour, moi je suis Caroline Politi et je suis également journaliste pour la rubrique Police-Justice de 20 minutes.
Caroline et Hélène reviennent dans cette première partie de ce podcast sur les 3 premières semaines du procès consacrées aux parties civiles, la parole des victimes, leur travail de tri, de transmission de l'information et puis tout ce qui n'est pas écrit, c'est-à-dire ce qu'on ressent quand on assiste à ce procès. Parce qu'il y a bien la professionnelle, la journaliste et puis évidemment il y a la personne avec sa vie, ses émotions. 3 semaines de paroles, de témoignages forts consacrés aux victimes reconnues et aux victimes qui se disent parfois invisibles.
Ce procès, il a été organisé et découpé d'une façon très précise par le président de la cour d'assises spéciale, Régis de Jorna. Les 3 premières semaines de l'audience, en fait, ont été dédiées uniquement aux parties civiles. Et ensuite, on est passé au fond du dossier avec l'interrogatoire des accusés. Donc, ces 3 premières semaines, on se retrouvait avec des audiences où on enchaînait des témoignages très forts.
Et du coup, forcément, ça marque, c'est dur, on n'est jamais insensible. On assiste à des scènes qui sont parfois vraiment bouleversantes, mais en tout cas, on est quand même concentré. On est concentré sur quelque chose et du coup, c'est peut-être un filtre. Avec toute cette émotion, il y a quand même, il y a au bout de 3 semaines, enfin moi, ça m'est même arrivé d'en rêver parfois, ça m'est arrivé d'en rêver, mais bon, il y a aussi la vie, le soir on rentre et quand il faut lire Pompon, Ourson chez les dinosaures, ça remet les choses à leur place. Enfin non, mais c'est vrai, je me suis dit plein de fois pendant le procès que je pense que ça m'aidait également d'avoir une vie de famille à côté et de pouvoir, les enfants, ça aide aussi à être dans une réalité immédiate et à couper, même si c'est extrêmement lourd et que parfois, il ne faut pas être tenté de s'identifier, je pense. Notamment quand c'est des journalistes, notamment parce que d'abord, je pense que ce qu'ils ont vécu, c'est leur histoire. Et en même temps, et surtout, il faut réussir pendant 3 semaines à la fois... En fait, c'est à la fois, on est touché par leur témoignage et en même temps, il faut réussir à s'en protéger un petit peu
Là où moi je rejoins Caro, c'est je trouve que ce qui est difficile en fait, et c'est vraiment un piège dans lequel il faut pas tomber, mais toute proportion gardée évidemment, puisque c'est pas notre histoire, c'est pas notre vie, nous on est observateurs et on relate ensuite et on raconte. Mais il y a moi je trouve les témoignages les plus difficiles, c'est ceux où on a justement cette possibilité d'identification, quoi. Parce qu'on fait partie de la même génération, parce que quelque chose dans le discours ou dans la personnalité de la personne qui va s'avancer à la barre et raconter son histoire va nous va résonner en nous, voilà, enfin, parce que on exerce la même profession, enfin, pour plein de raisons. Et effectivement, je trouve que c'est ces témoignages-là. Et puis parfois, on va rien partager, ou on va se dire, ah tiens, je peux pas m'identifier de prime abord à cette personne-là. Et finalement, il y a quelque chose dans son récit. Ouais. Qui va résonner en nous et qui va nous déstabiliser, nous émouvoir, nous bouleverser. Mais globalement, je trouve que ce que disait aussi Caroline, ce qui était hyper intéressant, et là où pour le coup n'importe quelle partie entre guillemets prenante de ce procès peut le comprendre, c'est, je trouve que ce procès-là, il a montré la déflagration qu'est un attentat. Et il a permis de mesurer l'ampleur quand on est témoin d'une attaque, victime directe ou indirecte, le nombre de personnes qui ont été touchées parce qu'ils ont été en contact une demi-seconde, parfois 10 secondes avec les terroristes ou avec la scène de crime ou avec, en lien avec l'une des victimes. Et ça, c'est, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, quoi, de voir l'empreinte que ça a laissée sur des centaines et des centaines et des centaines de personnes, quoi.
C'est vrai que pendant ce process qui a été assez marquant, et ce qu'on n'imaginait pas forcément, c'est qu'il y avait un certain nombre de victimes qu'on avait évidemment identifiées. Et puis il y en a certaines qui se sont présentées à la barre et qu'on ne soupçonnait pas. Elles se sont un peu appelées les victimes invisibles. Il y en a une qui s'était désignée ainsi. Ce sont des personnes qui ont été mises en joue, soit par les frères Kouachi, le premier jour des parties civiles. C'est les premières qui sont passées à la barre. Et 4-5 personnes sont venues raconter le même discours. Ce jour-là, les frères Kouachi se sont trompés d'immeuble et donc sont rentrés dans des entreprises qui n'avaient rien à voir avec Charlie Hebdo, et les ont menacés avec leurs armes, et elles ont cru mourir, ces personnes. Et en fait, plusieurs d'entre elles ont sombré dans des très profondes dépressions, et il y a eu des récits similaires pour Amedi Coulibaly. Je crois que moi, l'un des témoignages qui m'a le plus marqué, c'est à Montrouge, cet homme qui se retrouve à côté de... C'est un agent de la voirie qui se retrouve à côté d'Amedi Coulibaly, qui ne comprend pas encore qu'il vient d'abattre Clarissa Jean-Philippe, qui était donc la policière de Montrouge. Et du coup, il sent cet homme à côté de lui, et il voit cette arme, et il pense que c'est une arme factice, et il lui dit... Enfin, c'est complètement con ce que tu fais. Alors qu'il y a eu un attentat hier, et au moment où il dit ça, il se rend compte. Et donc, il saisit l'arme, et en fait, il racontait à la barre ce corps à corps terrible où, en gros, il luttait pour sa vie. Et en fait, ce qui était très fort, au-delà de l'expérience qu'il racontait, c'est qu'il disait qu'au début, il est retourné travailler normalement le lendemain. Donc, malgré tout ce qui s'était passé, il est venu travailler. Et qu'en fait, après les attentats du 13 novembre, il a sombré dans une très forte dépression, rattrapé par tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui était inattendu, c'était toutes ces victimes mises en joue qui, à un moment, ont été au contact des terroristes et cette déflagration psychologique qu'elles vivent encore aujourd'hui.
Et ça, ce sont des anonymes, ce sont des gens dont on a peu entendu le récit a posteriori en 2015 dans les médias. Voilà, ce sont des gens, entre guillemets, comme vous et moi, qui ont des métiers tout à fait différents et qui ont été touchés. Donc ça, je trouvais que c'était assez bouleversant de voir cette l'ampleur de ce qu'est un attentat dans toutes ces vies-là, quoi.
Est-ce que parmi tous ces témoignages de victimes, il y en a eu qui vous ont marqué plus que d'autres ?
Alors moi, il y a deux séquences qui m'ont particulièrement marqué pendant ces 3 semaines de témoignages des parties civiles. La première, c'était le témoignage de la maman de Stéphane Charbonnier, donc Charb, l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo qui a été assassiné par les frères Kouachi. La mère de Charb vient à la barre au nom de la famille proche de Charb pour dire qui était son fils et pour raconter la perte de ce fils-là, à la fois comme en tant que mère et puis mère d'un dessinateur aussi. Et pour rendre hommage à son fils, elle a tenu à ce que des dessins de Charb soient diffusés pendant son témoignage. Sa demande a été acceptée et des premiers dessins de Charb ont commencé à être projetés sur le grand écran au-dessus des magistrats de la cour d'assises spéciale. Donc au début, c'est les personnages classiques de Charb, ces petits bonhommes jaunes avec des gros pifs et toujours très irrévérencieux. Et tout le monde en prend pour son grade. Et bon, le premier dessin, c'est quelques rires qui fusent du côté des avocats, du côté des parties civiles aussi, du côté des bandes des journalistes. Et puis petit à petit, les dessins sont projetés et les rires deviennent plus franc, et franchement la cour d'assises riait vraiment. Et moi j'étais à ce moment-là assise à trois bancs du box situé sur la gauche, puisque les accusés sont répartis dans deux box, et j'ai clairement vu l'un des accusés, Michael Pastor Alouatic, qui a ri de bon cœur derrière son masque dans le box, quoi. Et c'est vrai que cette scène, moi elle m'a marquée, parce que on avait l'impression qu'en fait, il découvrait le travail de Charb et de Charlie Hebdo. Franchement, cette scène, c'était un peu lunaire, parce que à la fois, on se dit c'est un hommage très puissant qui est rendu à Charb. Et en même temps, moi, le premier truc que j'ai ressenti, on se dit, mais quel gâchis, quoi. Quel gâchis de voir ces rires-là et pour reprendre les mots de la une de Charlie Hebdo, tout ça pour ça, quoi. L'autre témoignage, je dirais, que j'ai trouvé assez bouleversant, c'est un double témoignage en écho, un peu en miroir, de Lilian Lepère et Michel Catalano, qui sont les deux hommes qui se sont retrouvés les derniers en face à face avec les Kouachi dans l'imprimerie de Dammartin. Où Michel Catalano, c'est un homme qu'on a vu beaucoup dans les médias après, donc qui est le patron de cette imprimerie, qui a accueilli les frères Kouachi et qui a prévenu son employé Lilian Lepère, qui était graphiste, jeune graphiste à l'époque, et qui, avant que les terroristes ne rentrent dans l'entreprise, a dit à son salarié, à Lilian, va te cacher, quoi. Donc Lilian s'est caché pendant des heures et des heures sous un évier. On a vu la photo qui a été projetée à l'audience, un évier qui est minuscule et... on comprend le calvaire qu'il a raconté ensuite. Et Michel Catalano, c'est un homme, on sent, voilà, qui a gardé un sang-froid inouï, qui était droit dans ses bottes, qui a réussi à sauver son employé. Et là, on a vu un homme complètement brisé, quoi, qui s'est effondré à la fin de son témoignage et qui a fini en larmes. Et en fait, ce que j'ai trouvé très fort, c'est la relation qu'ils ont tissée, qui est une relation qui est indescriptible, il n'y a pas de mots, quoi. C'est pas une relation d'amitié, c'est qu'ils se doivent la vie mutuellement. Il y a une forme de reconnaissance éternelle l'un envers l'autre, parce que ce lien-là, ça les a sauvés. Et ça, c'était assez bouleversant, ouais.
C'est difficile, dans ces trois semaines, de choisir des témoignages, mais c'est vrai que moi, j'ai été extrêmement marquée. C'était la première semaine, d'abord par le témoignage de Coco, une des dessinatrices de Charlie Hebdo. C'est elle, en fait, qui a été mise en joue. Elle fumait une cigarette devant les locaux. Elle a été mise en joue par les frères Kouachi et forcée d'ouvrir la porte de la rédaction, de faire le code et d'ouvrir la porte de la rédaction. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où les frères Kouachi ont commis leur massacre. Et elle a été épargnée, entre guillemets, physiquement. Et en fait, c'était terrible parce qu'à la barre, elle revivait la scène, elle la mimait presque. C'est-à-dire qu'à un moment, elle raconte qu'elle se trompe d'étage, qu'elle est persuadée qu'à ce moment-là, les frères Kouachi vont l'assassiner. Elle réfléchit, elle se dit qu'elle a une petite fille qu'elle doit aller chercher à la crèche. Elle est prise dans un dilemme absolument insoluble pour toute personne. Et elle dit à un moment cette phrase, elle dit « personne ne peut me comprendre ». Et elle est en larmes, elle dit « personne ne peut me comprendre ». Et c'est vrai, je pense que personne ne peut comprendre ce qu'on ressent quand on est mis en joue par une Kalachnikov, c'est impossible. Et ce témoignage qui était extrêmement fort, il a fait écho, en tout cas moi j'ai trouvé qu'il faisait écho à un autre témoignage, celui-ci qui s'est passé dans l'hypercachère. C'est une caissière de l'hypercachère qui s'appelle Zary Siboni qui raconte. Donc elle était à sa caisse et elle raconte qu'elle peut, à ce moment-là, quand Amélie Coulibaly débarque, elle est en train de scanner du poulet surgelé, comme quoi le terrorisme arrive dans la banalité du quotidien. Et donc, elle assiste d'abord au meurtre d'un de ses collègues. Et donc, une fois qu'Amélie Coulibaly est rentrée dans l'hypercachère, une partie des clients et du personnel s'est cachée au rez-de-chaussée. Et Amélie Coulibaly l'envoie en lui disant « Tu dois leur demander de remonter. » Elle descend. Et là, elle dit qu'il faut qu'il remonte et personne ne veut remonter. Au début, personne ne veut remonter avec elle. Et elle l'explique à la barre et elle dit, et c'est poignant, elle dit, à ce moment-là, je suis dans un dilemme. Soit je remonte et peut-être qu'il va me tuer parce que personne n'a voulu remonter avec moi. Soit je reste en bas, je me cache, mais il va tuer ma collègue. Et elle décide de remonter. Elle décide de remonter. Finalement, Amélie Coulibaly enverra d'autres personnes, notamment une cliente qui racontera également un témoignage extrêmement fort. Mais en fait, ce qui est marquant, c'est face à ce terrorisme, c'est ces gens qui racontent voilà, des dilemmes qui sont insolubles. Donc, quand on n'est pas confronté à ça, comment choisir quelle position adopterait-nous? Je pense que personne ne peut dire de manière très ferme comment il agirait dans ces cas-là, puisque je pense que personne ne le sait vraiment avant d'y être confronté.
Merci à Caroline Politi et Hélène Sergent, journaliste à 20 minutes. On les retrouve demain dans Minute Papillon pour la seconde partie de ce podcast consacré aux énigmes, aux questions qui restent en suspens dans ce procès. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Avec son point d'exclamation, vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve demain donc pour la deuxième partie de ce podcast. D'ici là, portez-vous bien.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your backyard aren't exactly comfortable, and while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from sugarcane, they've made the Superlight, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's allbirds.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.